Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Afflux de déplacés à Lubero centre dans le nord Kivu. Ils sont des milliers qui fuient les combats entre l'armée et le M23 à Kanyabayonga, Kirumba et Kaina. Ils disent vivre un calvaire dans leur lieu de refuge, ce qui explique le retour de certains d'entre eux dans leur milieu d'origine, ce malgré l'insécurité. Campagne de balisage de la rivière Kasai. Elle est lancée depuis hier par la Régie des voies fluviales RVF. Cette opération va aller de la rivière Kasai jusqu'au port d'Ilebo dans la province du Kasai, indique le directeur général de la RVF. Et puis, Sud Kivu, 4 détenus décédés après avoir consommé du jus leur apporté par un visiteur à la prison centrale de Bukavu. Cela s'est passé dimanche dernier, rapporte le directeur de la prison. Le parquet a ordonné l'arrestation de l'agent qui était commis à la garde ce jour-là. Pour en parler, nous recevons Babu Ramazani, directeur intérimaire de la prison centrale de Bukavu. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des milliers de déplacés qui fuient les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la région continuent d'affluer à Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Ils sont dépourvus de tout et disent vivre un calvaire. Le récit de Martial Papi Mukeba.
Ces déplacés, à majorité des femmes et enfants, fuient Kanyabayonga, Kirumba et Kaina sous occupation du M23. Beaucoup d'entre eux affirment avoir parcouru entre 100 et 135 kilomètres à pied avant d'atteindre Lubero centre, et cela sans nourriture ni eau. Quelques-unes de ces femmes déplacées décrivent leur calvaire.
Nous avons fui Kanyabayonga jusqu'à Kirumba. Ils nous suivent à Kirumba, mais nous venons à Lubero. On se repose ici, mais nous allons mourir de faim. Nous demandons une assistance en nourriture et médicaments.
Nous avons marché de Kirumba jusqu'à Lubero. J'ai 4 enfants, sans eau et nourriture. Nous avons vécu une grande souffrance sur notre chemin.
Avec les enfants, nous souffrons beaucoup depuis le début de cette guerre. Nous demandons au gouvernement de trouver une solution pour que chacun retourne dans son milieu d'origine.
Sur place, à Lubero centre, ces déplacés passent la nuit dans des écoles pour certains et pour d'autres à la Belle Étoile. Plusieurs humanitaires ont déjà quitté les territoires de Lubero à la suite de l'insécurité et de la crainte des dangers de la désinformation. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Justement, à cause du calvaire, plusieurs déplacés de guerre dans le territoire de Lubero ont décidé de regagner leur milieu d'origine, non pas à cause de l'amélioration de la situation sécuritaire, mais plutôt parce qu'ils se disent fatigués de se déplacer au gré de l'avancée des rebelles du M23. Depuis le week-end, ces retours sont observés dans plusieurs localités de la région, indique la société civile locale. André Kitenge nous fait le point.
Quelques 30 000 déplacés qui ont fui les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 ont décidé de quitter leur milieu de refuge pour regagner progressivement leur village d'origine, rapporte la société civile locale. La même source indique que ces déplacés qui sont dépourvus de tout et sans assistance humanitaire sont fatigués de mener une vie d'errance. Certains d'entre eux regagnent Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, voire dans une partie du territoire voisin de Rutshuru, déjà sous occupation du M23. D'autres qui refusent de rester dans des zones occupées par le M23 ont choisi de poursuivre leur parcours vers la commune de Lubero centre et les villes de Butembo et de Beni. Sur leur chemin, indique la société civile locale, certains soldats des FARDC en opération militaire contre le M23 leur ravissent les maigres biens qu'ils arrivent à emporter avec eux, notamment leur bétail. Ce que déplore cette structure citoyenne qui condamne cette autre forme de souffrance infligée à des personnes déplacées, vulnérables et traumatisées. Elle recommande aux autorités militaires de diligenter des enquêtes pour identifier les auteurs de ces actes afin de les mettre à la disposition de la justice militaire. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Notez par ailleurs que actuellement dans le Lubero, 31 militaires dont des officiers fuyards au front contre le M23 sont jugés en flagrance par le tribunal de garnison du Nord Kivu à Limbongo. Parmi eux, 2 capitaines, 3 épouses des militaires. Par ailleurs, quelques habitants qui avaient fui les combats Rigan, Bouleoussa et ses environs dans le groupement Ikobo, c'est dans la partie nord du territoire de Walikale, limitrophe à la partie sud de Lubero. Selon certains notables du milieu, ce retour est motivé par l'éloignement des menaces des rebelles du M23 qui sont localisés présentement dans le sud Lubero, notamment Kimaka et Miriki, environ 15 km de Bouleoussa. En effet, à la fin du mois de juin dernier, des combats violents avaient opposé l'armée congolaise au M23 entre Kibwe et le pont Lailai, 3 km de Bouleoussa, ce qui avait provoqué le déplacement des populations. Jusqu'à présent, tout Ikobo est sous contrôle des FARDC, disent les mêmes sources. Nord Kivu toujours. La société civile Force Vive de la commune de Karisimbi alerte sur le danger que représentent les maisons de passage dans la ville de Goma. Cette structure citoyenne soutient que ces maisons closes constituent un repère des criminels, lesquels sont à la base de la montée de l'insécurité dans bon nombre des quartiers de la ville. La plupart de ces lieux étant notoirement connus, le maire de Goma devrait instruire ses services de les démanteler, suggère la société civile. Chris Mukandmatande, reporter.
Ici, désignée maison de tolérance, on en rencontre dans certains coins de Goma. Même les camps des personnes déplacées dans et autour de la ville en regorgent. En plus de la prostitution, les boissons frélatées fortement alcoolisées, également des stupéfiants, y sont proposées. Ce qui en fait l'épicentre des divers actes criminels, à entendre Christian Kalamo, président de la société civile coordination communale de Karisimbi.
Chaque jour, il y a des crépitements de balles qui se font attendre dans beaucoup de quartiers de la commune de Karisimbi. Jusqu'au point où il y a eu fusillade au niveau du quartier Mgunga, sur l'avenue Mouchebere. Il y a un père qui vient de perdre la vie, même au niveau des cas de déplacés. Il se faut toujours attendre des crépitements de balles pendant la nuit. Ce qui nous pousse à faire maintenant appel encore à l'autorité urbaine de vouloir passer par des bouclages dans les cités de déplacés. Dans certains quartiers ici, il y a beaucoup de mesures de tolérance que même le cadre de base, les Nyumbakumi, les chefs d'avenue et les chefs de quartier ont déjà identifié et donné même les rapports au niveau de la mairie. En tout cas, nous demandons à l'autorité urbaine de fermer toutes ces mesures de tolérance se trouvant dans nos quartiers.
Les patrouilles des forces de défense et de sécurité menées dans le cadre de l'opération s'affiche à Mujua Goma, cible de temps à autre ces maisons de joie. L'idéal pour la société civile serait de les fermer définitivement. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, 9 bureaux d'organisations non gouvernementales locales et internationales sont déjà cambriolés depuis janvier par des hommes armés à Bunia. Ces derniers, munis de tous les équipements nécessaires, entrent par effraction dans les locaux de ces organisations et emportent tout à leur passage, coffre-fort et autres biens, affirment les victimes. La coordination de la société civile déplore ce regain d'insécurité qui affecte le travail de ces ONG en faveur des populations sinistrées par la guerre en Ituri. Le point avec Ezekiel Mouzali.
Un groupe de jeunes désœuvrés s'est constitué en bande de criminels dénommés Oulor et se livre dans le banditisme dans presque tous les quartiers de la ville de Bunia. Les maisons des particuliers et les bureaux des organisations sont ciblés par ces bandits qui défient parfois les policiers en patrouille. Le dernier cas date de la nuit du 30 juin où une dizaine de bandits armés de fusils et d'armes blanches s'est introduit dans la cour d'une organisation nationale qu'ils ont dévalisée après avoir ligoté le vigile. La société civile de l'Ituri déplore cette situation qui prend de l'ampleur au chef-lieu de la province. Dieudonné Lossa, son coordonnateur.
C'est une bande de malfaiteurs qui doivent avoir même leurs ramifications en dehors du pays. Ça nous fait très mal parce que ce sont des organisations nationales qui contribuent énormément pour la lutte contre les violences faites aux femmes.
Le commandant ville de la police à Bunia indique que parmi ces bandits, une cinquantaine sont déjà aux arrêts depuis la semaine dernière. Le colonel Abeli Mwangu.
Et avant la date d'indépendance, toutes les unités confondues de la police et celles des forces armées sont en alerte maximum. Certaines organisations non gouvernementales ont été visitées. Les enquêtes sont en train d'être menées.
Il demande à la population de Bunia de renforcer la collaboration avec les services de sécurité pour étouffer ces banditismes urbains. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Kisangani, nous apprenons qu'un enfant a succombé hier à ses blessures à l'hôpital général de Kisangani, Makiso. La victime a été atteinte d'une balle perdue tirée par un policier qui tentait de disperser la foule. Cette dernière allait déposer un corps à la morgue dans une ambiance de désordre. La victime revenait de la proclamation des résultats de fin de l'année scolaire 2023-2024 dans son école. Rendons-nous au Kasaï. Les victimes de violences liées au phénomène Kamuina Nsapu s'indignent de constater que 7 ans sont passés depuis ces événements, mais elles n'ont bénéficié d'aucune réparation par rapport aux préjudices subis. D'après le coordonnateur, on peut dénombrer à ce jour plus de 50 000 personnes qui attendent d'être indemnisées et remises dans leurs droits par la justice. Saluant tout de même la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes, Fonarev, Miran Moulumba souhaite que le processus s'accélère pour que les victimes soient consolées dans leur frustration. Ces propos ont été recueillis par François Kadima.
Les victimes du phénomène Kamuina Nsapu, elles sont en droit d'initier des recours pour obtenir réparation résultant du préjudice qu'ils auraient subi. Mais jusque-là, les victimes n'ont pas jusque-là bénéficié aucun aspect réparateur résultant du préjudice subi. D'où l'appel vibrant que nous lançons, bien entendu, aux autorités de la République, particulièrement le gouvernement, de pouvoir prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire en sorte que ces victimes qui attendaient impatiemment la justice, non seulement la justice, mais aussi la vérité, le processus de réconciliation pour certaines communautés qui, jusqu'à ce jour, vivent en chaîne faïence, qu'ils soient réconciliés, mais aussi la question la plus épineuse, c'est celle qui est liée à l'indemnisation de toutes ces victimes dont le chiffre s'élève à plus de 54 000. Mais entre-temps, qu'il nous soit permis de saluer la mise en place du Fonds national de réparation.
Côté Fonarev, on indique que le processus est en cours avec d'abord l'identification des victimes, ce qui devra se faire avant de passer à d'autres étapes. Rendons-nous au Sud Kivu, où nous apprenons que 4 détenus sont morts à la prison centrale de Bukavu le dimanche dernier. Selon le directeur de la prison, ces personnes sont mortes après avoir consommé du jus apporté par un visiteur. Le parquet et la direction de cette prison disent avoir ouvert des enquêtes à ce sujet. Babu Ramazani, directeur intérimaire de la prison centrale de Bukavu, témoigne au micro de Jean Kassami.
Il y a un visiteur qui est venu se présenter au niveau de la prison, précisément au quartier spécial. Il était porteur de 3 bouteilles de jus. Il est entré à l'intérieur de la prison, au quartier spécial. Il a trouvé le monsieur qui est revenu voir. Il lui a présenté le jus. Le monsieur a commencé à boire le jus. Ils étaient en groupe. Ils ont goûté. Le monsieur, après, il est parti. Vers minuit 30, on m'avait appelé. Nous venons d'enregistrer un décès. Selon les informations du chef de cellule, il a dit que le monsieur il a commencé à pleurer, la poitrine ça ne va pas et puis le jet il ne voit plus. Le second, c'était major de FARDC, lui aussi il a goûté ce jet, il était décédé vers 4h35 du matin. Le lendemain, on a trouvé des corps là-bas. Totalité, ils sont 12. Chacun a essayé de goûter. Après les 4 morts, les 8 personnes d'autres là, ils ont commencé à sentir les malaises. On a fait venir un monsieur là de l'hôpital polyclinique Salam de détecter si c'est quoi. Moi, je peux demander aux autorités, les 8 personnes là, qu'ils prennent la deuxième dose.
Je vous le disais en titre, la régie des voies fluviales RVF a lancé hier la campagne de balisage de la rivière Kasaï. Cette cérémonie a eu lieu au port de l'Office national des transports Onatra, ex-Onatra, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. À cette occasion, le directeur général de la RVF, Daniel Luaboshi, a indiqué que cette opération va aller de la rivière Kasaï jusqu'au port d'Ilebo. Il a également sollicité du gouvernement des moyens nécessaires pour permettre à la RVF de baliser d'autres cours d'eau du pays. Daniel Luaboshi, dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
La RVF a un personnel qualifié et disposé, mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence, mais alors elle est butée principalement à la précarité de sa trésorerie, due à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et aussi à la dévaluation ou au non-décaissement de la subvention que l'État prévoit pour la RVF à titre des ex-BPO. Cependant, c'est ici l'occasion pour nous de demander à notre gouvernement de libérer également à temps les crédits budgétaires en faveur de la RVF de l'ordre de 3 755 724 090 francs prévus respectivement pour les balisages des cours d'eau de Sankuru, Kasaï, Kwilu et Fimilukeni, dont le processus de passation des marchés pour l'acquisition des intrants est en phase terminale.
La RVF se propose de baliser au moins 5 873 km en 2024 pour prévenir des inondations constatées à la fin de l'année dernière. Et puis, aujourd'hui, nous sommes bien le 3 juillet et c'est la journée de lutte contre les déchets en plastique. À Kinshasa, quelques sociétés s'occupent de l'évacuation de ces déchets, parmi lesquelles la société Okeplast et Kintoko. Mais visiblement, leur rapport n'a pas encore réussi à résoudre le problème d'insalubrité dans la capitale. Des détails dans ce reportage de Plamedi Mbiavanga.
Kinshasa, autrefois appelé Kinlabel, est devenu, au dire des plus hier, presque une poubelle à ciel ouvert. C'est surtout après la pluie que la ville démontre son désastre. Plusieurs artères sont inondées et jonchées de déchets tels que de bouteilles en plastique et autres sachets. Dans certains endroits, de poubelles sont installées, mais de nombreux quinois n'en font pas usage. Conséquence, les rivières qui traversent la ville sont envahies par ces bouteilles et autres. Les caniveaux sont quasiment bouchés. Quelques sociétés s'évertuent à évacuer ces déchets. Mais problème, les journaliers qui collectent et vendent ces déchets plastiques à ces sociétés se plaignent du prix bas du kilo et des retards dans les paiements. Témoignage.
Nous ramassons un sac, mais nous ne prenons pas l'argent le même jour. Nous attendons après 2 semaines pour prendre l'argent. Travaillons sans gants, sans bottines, et lorsqu'on tombe malade, on se prend en charge.
Mon travail, c'est d'évacuer les plastiques dans la rivière. C'est risqué. Il faut que les autorités du pays s'occupent de nous et prennent notre travail en considération.
Pierre-Albert Nguyelele, professeur à la faculté de l'environnement de l'UNIKIN, parle des dispositions à prendre.
La faute revient à l'absence de la loi sur l'assainissement. Tout le monde est responsable. On ne peut pas dire que la population est tout à fait responsable.
Direction la province du Haut-Katanga. Les taxis-motos sont à nouveau interdits d'accès au centre de Lubumbashi, une mesure saluée par plusieurs personnes mais contestée par les concernés qui estiment que cela restreint leur mouvement sans raison. Jean Gandou.
La mesure est de l'autorité urbaine. Elle est motivée par le souci de rendre fluide la circulation au centre-ville où les motocyclistes sont accusés notamment de l'incivisme sur la voie publique. Ils stationnent n'importe où et ne respectent pas le code de la route, ce qui serait à la base de nombreux cas d'accidents. Pour ce faire, l'autorité urbaine a défini les périmètres au-delà desquels ces motocyclistes ne peuvent aller. C'est entre autres l'avenue des Écoles, l'angle des boulevards Katouba et Femme Katangaise, la route Kipouchi et le boulevard Kamaniola à la hauteur du jardin zoologique. Pour le maire intérimaire de Lubumbashi, le récalcitrant seront sommés de payer les amendes. Et les motos saisies doivent passer 10 jours au moins à la fourrière avant d'être récupérées par leurs propriétaires. Déjà, plusieurs dizaines de motos de ceux qui ont bravé cette interdiction sont à la fourrière de la mairie. Tout en sinon devant cette mesure de l'autorité urbaine, les motocyclistes la désapprouvent car elle ne leur permet pas de bien travailler. L'un d'eux explique.
Il faut que le maire de la ville puisse regarder sa décision parce que nous sommes des responsables. Nous n'avons pas d'autre travail. Notre proposition qu'il puisse nous faire libérer des barrières là, que nous puissions commencer à travailler normalement. Parce qu'on ne vole pas, mais on travaille.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Nous sommes en République centrafricaine. Les fortes précipitations de ces derniers mois continuent de faire sortir la rivière Ubangi de son lit. À Bangui, la capitale, une dizaine de quartiers sont gravement touchés. Entre avril et juillet en cours, on signale une centaine de maisons écroulées. Des enfants et des personnes âgées ont trouvé la mort et plusieurs centaines d'autres sont sans abri. Certains riverains volontaires de ces quartiers développent des initiatives pour prévenir les futures inondations.
L'invité.
Je vous l'ai dit dans les titres, 4 détenus sont morts et 8 rescapés des suites d'une intoxication alimentaire à la prison centrale de Bukavu. Le directeur intérimaire de cette prison indique que le produit ravageur a été introduit à l'intérieur de la prison par un visiteur avec l'intention de nuire. Le parquet a ordonné l'arrestation de l'agent qui était commis à la garde ce jour-là pour raison d'enquête. Et pour en parler, nous recevons Babou Ramazani, directeur intérimaire de cette prison. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le directeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur le directeur, une situation inédite s'est produite ici, samedi et dimanche. En tout, 4 morts dans 2 jours. Comment vous expliquez cette situation, monsieur le directeur AI?
Il y a un visiteur qui est venu se présenter au niveau de la prison, précisément au quartier spécial. Il s'est présenté là-bas. Il était porteur d'un 3 bouteilles de jus. Il est entré à l'intérieur de la prison, au quartier spécial. Il a trouvé le monsieur qui est revenu voir. Il a présenté le jus. Le monsieur a commencé à boire le jus. Tu vois, à la prison, il y a une solidarité. Ils étaient en groupe. Bon, l'autre a dit non, donnez-moi, je peux un peu goûter. Ils ont goûté. Le monsieur, après, il est parti. Vers minuit 30, on m'avait appelé. Nous venons d'enregistrer un décès. Selon les informations du chef de cellule, il a dit que le monsieur, il a commencé à pleurer, que la patrouille, ça ne va pas, et puis les yeux, il ne voit plus. D'un moment à l'autre, on a vu que le monsieur, il était décédé.
Ça, c'est le premier cas de décès signalé à minuit. Et le second cas?
Le second cas, c'est vers 6 heures. C'était un major de FARDC. Lui aussi, il a goûté ce jus. Il était décédé vers 4h30, 5h du matin. Vers 5h30, on m'a appelé pour dire que les deux autres viennent de décéder. On a fait revenir un monsieur là qui peut détecter c'est quoi. Le monsieur est arrivé, il a constaté non, il y a du poison. Les détenus de l'intérieur ont dit non, nous ne sommes pas sûrs avec ce monsieur, il faut aller à la polyclinique Salam, c'est là où il y a les experts. Nous nous sommes rendus avec les chefs de division de la santé pour leur dire que nous avons encore 8 cas au niveau de la prison. On nous a donné un infirmier, nous sommes descendus ici, il est venu prélever les crachats, il est rentré avec les crachats. En retournant, il a dit non, tous sont atteints, ils étaient positifs. Il est venu avec les médicaments. Première dose, on leur avait donné. Le lendemain, quand je suis arrivé ici, les détenus me disent, le dimanche là, ils me disent non, en tout cas on se sent un peu bien. Nous attendons la deuxième dose.
C'est qu'il n'y a plus lieu de se soucier pour cela.
Ce que moi je peux demander aux autorités, qu'on puisse faire les nécessaires, les 8 personnes là, qu'ils prennent la deuxième dose. S'il y a l'interruption, tu vois que ça peut créer un peu de problèmes au niveau de la prison.
Qu'est-ce que les autorités, la direction de la prison, ont fait après avoir constaté cela?
Nous avons d'abord ouvert une action disciplinaire aux deux surveillants qui étaient à la porte, qui nous expliquent comment ils n'ont pas bien identifié le monsieur qui est venu avec lui. Parce que nous avons un registre des visiteurs. Vous venez avec votre carte, on mentionne votre nom dans ce registre. On vous demande la personne que vous venez voir, les détenus, vous donnez le nom des détenus. Mais quand j'ai demandé les registres, j'ai constaté qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Les messieurs n'étaient pas enregistrés.
Comment vous interprétez le fait que quelqu'un vienne s'introduire à la prison avec des produits toxiques et cause des morts d'hommes?
Les jus n'étaient pas périmés. Il y avait une intention de nuire. Il est venu seulement cibler ces messieurs en lui donnant du jus.
Et donc, il avait un conflit avec la personne qui est venue visiter.
Moi, j'ai l'impression que le monsieur qui est venu, il a été envoyé. On a utilisé l'ami de ce monsieur-là.
Et au niveau de la justice, il y a des enquêtes qui sont déjà en cours.
Le procureur de la République doit commencer à faire des enquêtes. Même chez nous ici, on est en train de faire des investigations pour connaître ce monsieur. Mais jusqu'à présent, on est toujours dans des investigations.
Monsieur le directeur ad intérim de la prison centrale de Bukavu, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Notre invité répondait aux questions de Jean Kassami. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.